Bonjour et bienvenue à La Courtine. Vous êtes en direct sur Radio Vassivière et Radio Pays de Guéret, les deux radios associatives de la Creuse, qui s'associent aujourd'hui pour vous offrir ces 4 heures de direct depuis la commémoration des journées de 1917 à La Courtine. C'était il y a tout juste 100 ans, 16 500 soldats russes qui avaient quitté le front parce qu'ils refusaient de continuer à se battre pour une guerre qui n'était plus la leur, alors que la révolution battait son plein en Russie, et qui furent bombardés par la France. Donc une répression qui a laissé des traces dans la mémoire. Et c'est l'objet de ces commémorations où historiens, artistes, auteurs viennent chacun témoigner de ce souvenir. Et pour lancer ce direct donc, de 4 heures, j'ai à mes côtés Eric Kotzoff, qui est vice-président de l'association La Courtine 1917.
Bonjour.
Bienvenue Eric. Et comme ton nom l'indique, tu n'as pas un patronyme creusois, mais tu vas nous en dire un petit peu plus. Tu es un des descendants donc, de ces soldats russes qui furent enfermés dans ce camp de La Courtine en 1917.
Oui, donc moi je suis le petit-fils de Michel Molotzov, donc qui était donc soldat volontaire hein, de la première brigade, deuxième régiment dit Oural, donc originaire de l'Oural et qui a débarqué donc avec, on va dire le premier contingent de 10 000 hommes donc à Marseille à bord du Latouche-Tréville et donc effectivement je suis descendant d'un de ces soldats qui s'est retrouvé effectivement dans le secteur, oui, tout à fait.
Alors tu n'avais pas forcément conscience, en tout cas c'est que tu m'avais expliqué que dans ta famille en tout cas c'est pas forcément une histoire qui était très connue et qu'à un moment tu as découvert cette histoire, l'histoire de ton grand-père et de cette mutinerie.
Oui alors ça c'est une histoire un peu de hasard, mais je pense que ça va vraiment parler à tous les auditeurs, c'est-à-dire on a tous une boîte à chaussures, une boîte à gâteaux avec des vieilles photos dedans et je devais être adolescent, voilà, puis j'ai ouvert cette boîte, bon je savais qu'il y avait des vieilles photos et puis dedans, il y avait un soldat en uniforme, Première Guerre mondiale, mais ce n'était pas un uniforme français, ni allemand, ni que sais-je, etc. Et j'avais posé la question à mon père. Bon, je savais que j'étais d'origine russe, mais sans plus, on n'avait pas plus d'informations. Et donc là, mon père m'expliquait, oui, bah, ton grand-père est venu combattre sur le front français, donc pendant la guerre de 14. Et puis ça en est resté là, on va dire, pendant quelques années. Jusqu'au jour où je me pose la question en me disant, mais bon sang de bonsoir, la Première Guerre mondiale en France, c'est les Français contre les Allemands, les Anglais, ensuite les Américains sont venus plus tard, mais qu'est-ce que faisaient des Russes sur le front de l'Ouest et mon grand-père. Et donc le travail a commencé comme ça. Ouais.
Alors là aujourd'hui, donc, tu t'es pris justement donc, dans cette histoire. On s'est rencontrés la première fois en 2014. Tu es venu déjà à La Courtine pour inaugurer une stèle en mémoire de ces soldats. Raconte-nous un petit peu.
Alors oui, c'était en 2012, hein, l'inauguration. 2012, oui, tout à fait. J'étais venu un petit peu avant, en 2008, pour réaliser un documentaire hein, sur l'histoire du corps expéditionnaire russe, et évidemment le passage à La Courtine était un passage obligé dans la mesure où officiellement l'histoire du corps expéditionnaire russe s'arrêtait à l'offensive Nivelle. Après c'est le trou noir, hein, c'est-à-dire on sait pas très bien ce qu'ils sont devenus, bon apparemment ils ont terminé la guerre dans des camps de travail, etc. Mais on n'en savait pas plus, il y avait vraiment une occultation de l'histoire de ce qui s'était passé après. Et en se renseignant, je suis aussi tombé sur l'ouvrage de Rémi Adam, qui est l'historien en fait, qui a fait sa thèse sur le corps expéditionnaire russe.
Tu viendras à ce micro tout à l'heure.
Voilà, donc voilà, vous aurez un interlocuteur de qualité très précis sur ces questions-là. Donc du coup, en lisant le bouquin de Rémi Adam, et avec 2-3 informations que j'avais sur l'histoire de mon grand-père, j'ai pu replacer l'histoire de mon grand-père, les quelques informations, dans la grande histoire du corps. Et je me suis rendu compte que ce qui s'est passé après l'offensive Nivelle était tout anecdotique, et que peut-être justement tout l'intérêt de l'histoire du corps expéditionnaire russe résidait là, à La Courtine, sur ce qui s'est passé à ce moment-là.
Ouais, c'est une histoire très méconnue, donc tu l'as dit, et occultée. Comment ça s'explique justement que, en tout cas, il y a un voile qui a été porté sur cette histoire et que l'historiographie finalement s'y est intéressée à cet art ?
Alors, ce qui, ça s'explique de la manière suivante, c'est-à-dire que lorsque le corps expéditionnaire russe a débarqué à Marseille, ils ont été accueillis, mais vraiment comme des héros. Hein. Il faut savoir que les volontaires russes étaient choisis suivant des critères physiques. Il fallait qu'ils soient grands, avec des yeux bleus, si possible blonds, qu'ils en imposent en tout cas. Et ils étaient, on va dire, les premiers soldats qui devaient arriver à l'enclenchement d'une Doria, parce qu'on attendait quand même plusieurs centaines de milliers de soldats russes hein, pour remplacer les morts français, hélas, de la grande boucherie. Hein. Donc c'était vraiment les premiers contingents qui devaient arriver. Et ça sera quasiment les seuls, puisqu'il y aura une deuxième brigade, la troisième brigade qui débarquera à Marseille un peu plus tard. Mais en tout, il n'y aura que 20 000 hommes hein, sur le front français. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'ils ont débarqué, ils ont été photographiés, filmés. En gros, les héros russes arrivent et ils vont mettre la pile aux Allemands. C'était vraiment la première opération de communication de l'armée française, à tel point que l'état-major français a même fait débarquer le matériel des Russes par des prisonniers allemands. Et on voit, je me souviens très bien de cette photo, prisonniers allemands qui sont tout petits comme ça et qui regardent ces géants russes qui sont près du bastingage de ces bateaux quoi, et qui les écrasent de toute leur hauteur. Donc c'est sûr, la guerre est gagnée avec ces gars-là. Quoi, hein. Et puis, donc après leur débarquement à Marseille, donc ils arrivent donc, le 16 avril à Marseille, on les envoie donc au camp de Mailly pour suivre un entraînement de la guerre moderne, parce que les Russes ne savaient pas ce que c'était que la guerre de tranchées ni l'armement moderne. Hein. Là, rentrent en action donc les mitrailleuses, les masques à gaz, hein, les fameux obus à gaz chimiques qu'ils ne connaissaient pas. Donc on les initie à la guerre moderne avec le matériel moderne. Et puis on les envoie au front prendre les lignes donc dans le secteur de Champagne, donc secteur de Reims. Hein, donc c'est le secteur qu'on va leur allouer. Ils vont être utilisés beaucoup pour des coups de main, pour aller prendre des prisonniers dans les tranchées allemandes, parce que les Allemands s'attendaient à tout, sauf avoir des Russes sauter dans la tranchée. Donc l'effet de surprise était intégral. Et donc ils vont faire leur boulot, hein, ils vont faire leur boulot jusqu'à la fameuse offensive d'avril 1917. Et là, ça devient intéressant parce que c'est le basculement. Parce que l'offensive Nivelle de 1917, fameuse offensive qui doit permettre de percer le front et d'emporter la victoire.
La fameuse.
Fameuse, oui. Tristement fameuse après, ouais, évidemment, puisque ça aurait été un coup fourré. Ouais. Avant avril 1917, se produit en Russie quand même un événement majeur qui est quand même la révolution. Donc, révolution de février, et puis les soldats russes, nos soldats russes, mon grand-père, sont informés que la révolution russe a eu lieu, donc que le tsar donc, a abdiqué, et qu'ils sont autorisés par le gouvernement provisoire, donc ils sont dans la légalité, à créer, en tant que citoyen russe, des comités de soldats. Comité qui s'appelle en russe soviet. Et là, l'état-major français, un peu éberlué, voit donc ces soldats russes se réunir, élire des délégués pour les envoyer en Russie pour élire donc la nouvelle assemblée de Pétrograd. Hein. Donc, et c'est pas dans les mœurs soldatesques ça, de voir des soldats qui se réunissent, d'autant plus que la fracture qui était déjà bien entamée avec les officiers monarchistes, là, est totale. Est totale. Donc la situation à la veille de l'offensive Nivelle est la suivante, c'est-à-dire que nos Russes ont créé leur soviet, une bonne partie des officiers russes sont partis à Paris, hein, voilà, ils sont établis dans des hôtels à Paris, dans les salons. Bon, apparemment ils étaient plus doués pour mener un peu cette vie de salon que de mener leurs hommes sur le terrain, parce qu'il y a des histoires incroyables hein, de relève sous les bombes alors qu'il aurait fallu attendre comme ça des morts. Enfin bref, il faut aussi ne pas perdre, avoir à l'esprit aussi que la discipline militaire russe était une discipline extrêmement rigoureuse avec des châtiments corporels. Et puis comme ces officiers étaient en France, ils voulaient aussi en remontrer aux officiers français en disant regardez comment on mène des hommes à la baïette, des moudjiks. Donc le sentiment de haine était déjà présent entre les hommes de troupe et les officiers. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la première brigade à laquelle a appartenu mon grand-père était une brigade qui a été recrutée dans les secteurs urbains, parce que le tsar voulait envoyer des gens qui sachent lire, écrire, compter. Et ces jeunes soldats issus de milieux urbains du secteur de Moscou, etc., avaient déjà aussi l'expérience, en tout cas, de la première révolution de 1905. Donc il y avait une forme de politisation qui était déjà dans cette brigade. Et autant dire que lorsqu'ils ont appris que la révolution avait eu lieu en Russie, on va dire que la graine qui était en train de germer est tombée dans un terreau fertile. Donc nous nous retrouvons à la veille de l'offensive Nivelle avec des Russes. Alors, les Russes devaient participer, tenir leur secteur de front, hein, notamment reprendre donc le village de Courcy en Champagne et prendre un fort, le fort de Brimont, et prendre une hauteur qui s'appelle le Mont-Spin. Enfin bref, c'était l'objectif qui leur était assigné. Et puis, les Russes se réunissent en fait pour dire, pour savoir, on y va ou on n'y va pas. Et donc, ils se réunissent et ils votent la participation à l'offensive Nivelles. Alors, en gros, le deal, c'était on est venu pour vous aider à remporter la victoire. On fait cette offensive qui est normalement l'offensive décisive. Mais en échange, vous nous rapatriez en Russie. On veut rentrer en Russie. Donc, l'état-major accepte le deal. Et puis, ben, nos Russes, ils prennent leur position et ils vont participer à cette offensive Nivelles extrêmement meurtrière parce que les Russes vont être les seuls à gagner en fait la moitié de leur objectif. C'est-à-dire, ils vont reprendre le village de Courcy, mais ils vont se faire massacrer sous le fort de Brimont par les mitrailleuses allemandes. Ils vont laisser 6000 hommes sur le terrain. Et mon grand-père va être blessé par des éclats d'obus sur tout le côté gauche.
Alors justement, j'aimerais qu'on revienne à ton grand-père. Qui était-il avant la guerre? Comment est-ce qu'il a traversé ces événements? Et qu'est-il devenu justement après les événements de la Courtine?
Alors mon grand-père a été originaire donc d'une ville assez importante qui s'appelle Kotelny, qui est au bord de la Viatka. La Viatka est un affluent de la Volga. Les informations qu'on a pu en avoir, parce que mon grand-père est mort en 1947 d'une septicémie, il s'est blessé. D'ailleurs, à cause d'un éclat d'obus resté dans sa jambe, hein, il s'est heurté la jambe et ça s'est infecté. Donc il est mort des suites de la guerre en 1946, bien après. C'est aussi une victime de guerre. Donc très peu de choses ont été transmises parce que ses enfants étaient très jeunes, etc. Mais ma grand-mère m'a quand même donné quelques bribes d'informations. Et il semblerait qu'il soit fils unique. Il était fils unique de commerçants, d'un couple de commerçants qui tenait une quincaillerie, voilà, dans cette ville de Kotelnik. Et donc, à l'époque où il a été recruté, il faisait son service militaire, et le service militaire durait 3 ans, hein, à l'époque de la Russie impériale. Voilà, pour ses origines.
Ouais. Alors justement, tu l'évoquais tout à l'heure, ces Russes qui ont été envoyés, en plus par un voyage absolument épique pour rejoindre le front, c'était aussi des personnes dont le régime, disons qu'il voulait un peu se débarrasser, ou ça les arrangeait de les éloigner, certains étaient politisés. Est-ce que ton grand-père faisait partie de ces soldats que le régime tsariste voulait
éloigner? Non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Du tout. Le recrutement, en fait, s'est fait de la façon suivante. C'est le témoignage d'un soldat russe, d'ailleurs, qui s'appelait Georges Zamotine, qui avait témoigné en disant, voilà comment ça s'est passé dans ma caserne. Et je pense que ça s'est passé comme ça. Un officier rentre dans la caserne, met tout le monde au garde-à-vous. Il dit, voilà, on veut envoyer des soldats en France. Les volontaires avancent d'un pas. Donc là, il raconte, tout le monde avance d'un pas. Alors pourquoi tout le monde avance d'un pas? Parce que la France, pour les Russes, ça fait rêver. Il y a une vieille histoire d'amitié entre la France et la Russie. Et la France, ça fait rêver. C'est le pays des arts, le pays de la culture. Et puis, pour ces gars-là, c'est aussi l'occasion de voyager, hein, de partir. Donc, du coup, tout le monde était volontaire. Et puis, ensuite, le tri s'est fait comme ça. Alors, les petits reculent. Ceux qui sont malades reculent. Ceux qui savent ni lire ni écrire reculent. Ne restaient que quelques hommes. Et c'est comme ça qu'ils ont été recrutés et qu'on a formé donc, ces fameuses brigades russes. Mais il n'y avait pas du tout de volonté de se débarrasser, hein, de ces jeunes hommes. Pas du tout. Du tout.
Alors, donc, suite au bombardement et l'attaque sur le camp de la Courtine, donc certains soldats évidemment sont décédés. Il y a d'ailleurs des tombes russes au cimetière de la Courtine, où a été érigée cette stèle donc, il y a quelques années. D'autres ont été déportés en Algérie. Certains ont accepté de retourner combattre. Quel a été le destin de ton grand-père?
Alors. Donc, si on fait juste un petit retour en arrière après l'offensive Nivelles, hein, donc nos soldats russes se révoltent. Le 1er mai, ils défilent avec le drapeau rouge. Hein, donc, on est au front. Hein, donc là, les autorités françaises décident de les éloigner. C'est pour ça qu'ils se retrouvent à la Courtine. On va chercher un lieu isolé pour les éloigner définitivement du front. Donc, ils débarquent. Hein, ils débarquent le 21 juin, la garde de la Courtine, mais avec armes et bagages, parce qu'ils n'ont pas voulu se désarmer en disant que tant qu'on a nos armes, on peut négocier le retour en Russie. Donc, ils débarquent, ils sont armés. Et donc ils vont passer l'été, mais là maintenant ça c'est connu, hein, l'été ici effectivement à la Courtine. Et donc après la répression de la Courtine, on leur donne effectivement ces 3 choix. Et mon grand-père donc, va se retrouver au camp du Courneau pendant un certain temps. Et puis ensuite il va choisir parmi les 3 choix qu'on leur a donnés, c'est-à-dire soit rejoindre le front, ce qu'il va refuser, soit intégrer une compagnie de travail, toujours sur l'uniforme. Donc là, bah, comme la grande majorité, il va accepter d'intégrer une compagnie de travail. Et c'est comme ça qui va se retrouver dans une carrière du côté, en Franche-Comté, du côté de Lure, c'est à côté de Vesoul. Il va se retrouver avec ses camarades à casser des cailloux. Voilà. Jusque 1919. Et puis 1919, il va être libéré de ses obligations militaires. Il va faire partie des rares Russes qui ne vont pas souhaiter retourner immédiatement en Russie. et il va trouver du travail très rapidement. Je ne sais pas comment il s'est débrouillé, mais il y a un entrepreneur de travaux publics des Vosges, de Thaon-les-Vosges, qui va envoyer donc à la base militaire russe de Laval, parce que c'était le centre administratif de gestion à Laval, hein, dans la Mayenne, donc une promesse d'embauche. Et donc voilà mon grand-père, avec son uniforme, bah, qui débarque donc à Thaon-les-Vosges en 1919 chez ce monsieur Donned, entrepreneur. Et bah, il va enchaîner comme ça les travaux, et comme, oui, enchaîner comme ça les métiers, les travaux, toujours les travaux publics. Et comme c'était un homme de caractère et manifestement de commandement, il va être très très rapidement accéder en fait au grade de chef de chantier. Hein. Il est toujours, toutes les photos que j'ai, même après-guerre, hein, dans les années 20, années 30, c'est toujours un homme qui se tient debout, un peu à l'écart des autres, avec sa pipe, et toujours, toujours, toujours une paire de bottes. Voilà, toujours des bottes. On ne peut pas le louper. Voilà.
Alors, il y a plusieurs descendants ici de soldats de la Courtine, enfin, soldats russes de la Courtine qui sont présents. Certains vont passer au micro tout à l'heure. Donc, vous connaissez maintenant, vous avez fait connaissance. Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous partagez comme histoire commune autour de ces histoires familiales?
Ah, alors là, oui, effectivement, c'est extraordinaire ce qui est en train de se passer. C'est très, très émouvant parce qu'on s'est rendu compte que chacun, nous, fils, petit-fils, arrière-petit-fils, on s'était emparé de cette histoire, mais on était totalement isolés avec nos trois photos pour ceux qui avaient de la chance, deux, trois écrits pour ceux qui avaient extrêmement de chance, et puis ceux qui ont eu le réflexe d'interroger les anciens, hein, leur vieil oncle, etc., qui ont connu le grand-père, hein, et qui ont eu des informations. Mais on s'est rendu compte qu'on était tous isolé dans notre boulot. Donc la création de l'association, ça c'est important, hein, donc la Courtine 1917 qui organise effectivement cet événement en 2014, et ensuite la création de son site internet a permis de nous retrouver. Du coup, il y avait la page contact, et là on a vu arriver des gens qui, oui, ben moi mon grand-père est de la première, moi de la troisième brigade, moi ci, moi ça, etc. Et donc du coup, on forme maintenant une petite famille de 15, pour l'instant de 15 descendants, où on s'entraide avec, bah, dans nos recherches, hein, comment on recherche ou comment accéder aux archives militaires, aux archives nationales, etc. Donc, et cette rencontre s'est faite au colloque de Marseille, donc en avril 2016. Hein, on a fait un gros colloque sur l'histoire du corps expéditionnaire russe, où là, c'est la première fois que là, tous les descendants se sont retrouvés. Donc, on a fait vraiment une photo de famille. C'était très, très émouvant. Et là, là aujourd'hui, bah, y a deux nouveaux descendants, deux nouvelles descendantes qui se sont manifestées et qu'on va intégrer à l'association. C'est formidable.
Ouais. Alors, ce qui concourt aussi à la force, hein, de cette histoire, c'est notamment donc, les archives qui nous restent et les archives photographiques. Mmh. Dans les ouvrages qui ont été publiés, il y a des images absolument bouleversantes, hein, de ces soldats avec, avec ces banderoles pacifistes en plein milieu de la bouche de 17, avec des cocardes, des fleurs à la tunique. Comment on explique justement cette histoire iconographique qui donne aussi sa force romanesque à cet épisode?
Bah, je pense que simplement que c'est une histoire unique. Ce qui me touche dans cette histoire, c'est qu'on voit arriver des soldats russes qui sont censés être des moudjiks, des gens soumis, d'une discipline de fer, un régime tsariste, qui sont censés obéir au doigt et à l'œil, un peu comme des animaux qu'on envoie à l'abattoir, c'est un peu l'image qu'on en a, avec énormément de mépris. Et tout à coup, qu'est-ce qui se passe? Ces gars-là refusent la guerre, s'organisent. Il faut savoir qu'à la Courtine, ils élisent leurs officiers. Ils reprennent l'entraînement sous l'ordre d'officiers élus. Donc, qu'est-ce qu'on voit germer? Simplement, on voit germer des hommes qui sont en train de créer une forme de démocratie et de république. Dans le monde militaire, c'est inconcevable, ça. Et pourtant, ça fonctionne. Donc, pour moi, ce qui m'émeut le plus, c'est de voir cette naissance. Après, vous parliez de l'iconographie et des images. Oui, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, ça a été une opération de propagande de l'armée, ces Russes. Hein, parce qu'au départ, ils ont été 20 000 sous le front français, mais il devait y avoir plusieurs centaines de milliers de soldats russes qui devaient venir se battre. Ça n'a pas eu lieu parce que c'était très compliqué, les acheminer en France. Hein, beaucoup trop coûteux, trop compliqué. Mais donc, du coup, il y avait ce côté exotique aussi. Et puis, bah, cette prise de pouvoir populaire, je pense, n'a pas laissé les gens indifférents quand même, puisque même pendant, je veux dire, leur union soviète, eh ben, ils sont photographiés, des photographes viennent, etc. Donc, il se passe quelque chose pour les journalistes, là. Quelque chose de totalement inédit. Ouais.
Alors, le dernier ouvrage en date sur le sujet, 1917, Le Limousin et la Révolution russe, édité donc par les ardents éditeurs, éminente maison d'édition Limousine, dont nous aurons une représentante tout à l'heure sur le plateau, qui croise à la fois l'histoire de Marcel Bodi et cette épopée donc des mutins de la courtine. Tu as signé un article dans ce recueil. Pourtant, tu n'es pas historien. L'histoire n'est pas réservée qu'aux historiens.
Non. Alors, moi, je les salue toujours parce qu'ils font quand même le travail de fond. Hein. Ils sont quand même essentiels. Moi, si j'ai pu avoir des informations sur mon grand-père, c'est parce que des historiens ont travaillé en amont, évidemment. Ils apportent cette précision, ces documents, ces accès aux archives et puis ces analyses. En fait, tout ce travail d'historien qu'il faut saluer. Mais après, il y a aussi la petite histoire dans la grande histoire et celle des descendants, des particuliers qui vient un peu compléter tout ça, des destins. Parce que c'est aussi ce qui est intéressant dans l'histoire. C'est aussi l'histoire des destins particuliers parce que à travers cela, on peut avoir une lecture aussi de la grande histoire. Et moi, j'ai tout de suite accepté et je dis tout de suite. Alors, je dis effectivement, je ne suis pas historien, mais je peux raconter cette forme d'histoire. Et puis, à force de travailler dessus depuis une quinzaine d'années, on finit par accumuler quand même des connaissances, des éléments. Et donc, on peut se sentir, à un moment donné, autorisé en toute modestie à prendre en charge un chapitre. Voilà, mais sans se donner le titre d'historien. Mais en plus, je voudrais saluer effectivement l'initiative des ardents éditeurs parce que ce livre a double entrée quand même. Moi, je mets en résonance à mon grand-père, quoi. Je dis, ils sont croisés, quoi. Hein, parce que mon grand-père arrive sous l'uniforme russe en France et Marcel Bodi arrive sous l'uniforme français en Russie. Donc, cet effet miroir est tout à fait passionnant. Et donc, le fait d'avoir conçu le bouquin comme ça est absolument une idée de génie. Hein, faut quand même le reconnaître. Très instructive.
Un mot sur cet article donc, que tu as rédigé qui s'intitule De la pluie de fleurs à la pluie d'obus.
Oui. Oui, j'ai voulu prendre effectivement ce chapitre en charge parce que quand on me l'a proposé, c'est tout de suite le titre qui m'est venu à l'esprit. J'ai eu tout de suite cette image parce que cet accueil extraordinaire, des pluies de fleurs à Marseille, les jeunes filles leur jettent des bouquets de fleurs, enfin bref. Et d'ailleurs, les soldats russes le racontent et ils disent c'est extraordinaire, et on est accueillis comme des héros. D'ailleurs, au bout de 3 mois de mer, ils étaient complètement crevés. Hein, et là, tout à coup, ils expliquent. On se redresse, tout à coup, on est fiers, on retrouve une forme d'énergie comme ça. Ils sont heureux comme tout de défiler. Hein, voilà, donc là, ils sont sous la pluie de fleurs. Et puis, évidemment, la pluie d'obus, c'est l'ineptie de l'offensive Nivelle, quoi, où ils se font massacrer et où mon grand-père va effectivement porter dans sa chair en fait, une partie de cette pluie d'obus. Quoi, il a conservé quelques gouttes d'acier dans sa chair. Ouais.
La pluie d'obus, c'est aussi celle qui s'est abattue sur eux au camp de la Courtine. Oui. Alors, je ne sais pas quel type d'artillerie était utilisée à ce moment-là. Peut-être que Rémi Adam pourra nous en dire un mot. Il y a des traces, toi, dans ce que tu as pu retrouver justement sur cet épisode-là. Comment il l'a vécu,
Non, parce qu'il est mort il y a longtemps. Ensuite, les descendants partagent ça, mais d'autres descendants pourront en parler. C'est simplement que cet épisode, on n'en parlait pas. Voilà. Je pense que ça tenait peut-être, mais là c'est mon analyse personnelle du fait qu'il voulait rester en France et que, en gros, bon, il voulait peut-être plus rien avoir avec la Russie qui était à l'époque la Russie soviétique pour des raisons politiques aussi pour certains. C'est le cas de mon grand-père. Hein. Quand il demande sa naturalisation en 1930, il se déclare comme réfugié politique. Il veut rien avoir à faire avec la Russie soviétique. Mais c'était pas un épisode heureux. Et puis je pense qu'ils ont très certainement mal vécu le fait d'avoir été accueillis comme des héros, d'avoir fait leur partie de boulot. Et finalement que ces Français qui ont connu leur révolution française en 1789 leur interdisent d'aller vivre la leur en 1917. Et donc c'était une forme de déception, je crois. Et donc on n'avait pas trop envie d'en parler. Et puis il y avait aussi derrière ça le drame de l'offensive Nivelle, hein, qui était c'est un des fils de descendants qui disait quand mon père parlait, Jean Gavrilenko, quand mon père parlait de l'offensive, quand il lui a posé la question sur l'attaque de Brimont, il dit cette phrase, tout à coup mon père qui avait une voix sonore, sa voix a blanchi. Voilà. Donc ils étaient tournés vers l'avenir, je pense, clairement, quoi. Ouais. Et je tirais un trait sur tout ça.
Alors, ce matin, donc, pendant le colloque, à 10h très précises, les spectateurs ont pu entendre un enregistrement réalisé par notre ami Jean-Louis Bordier, qui voulait marquer justement ce centenaire très précis. À 10h, le 16 septembre 1917, les cloches de la Courtine ont retenti. Sonnant l'assaut justement sur ce camp par l'armée française pour réprimer cette mutinerie. Et en réponse à cela, les mutins, les soldats ont joué La Marche funèbre et La Marseillaise. On va écouter tout de suite cet enregistrement.
Septembre 1917, il y a exactement 100 ans, 10 heures sonnaient au clocher de la petite église de la Courtine quand explosaient les premiers obus de 75, tirés sur les mutins, retranchés, encerclés dans le camp militaire de la Courtine. Ils répondirent par la marche funèbre de Chopin et par la Marseillaise des travailleurs. C'était il y a 100 ans, dimanche 16 septembre 1917.